Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Vous le savez, ça n'a pas changé. Vous retrouverez Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait d'avant la célébrité, le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, Marc-Antoine Lebray. En fin d'émission et d'abord dans quelques instants, le journal des médias et les audiences télé du week-end avec Louise Bernard. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct. Ça non plus, ça n'a pas changé. Vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie de l'émission qui vous manque sur europe1.fr. Notre infomédia s'attache à un documentaire unique consacré à un personnage unique, Iggy Pop. Il a changé la face du rock à lui tout seul. C'est lui par exemple qui a inventé le stage diving, se jeter dans la foule. Il a influencé le punk, le rock, le grunge et même David Bowie. Ziggy Stardust parle de lui. C'est Iggy avec un Z. Iggy Pop a 75 ans. Il se confie comme jamais à la caméra de Sophie Blondy qui sera avec nous avec les témoignages uniques de Béatrice Dalle, Johnny Depp ou John Waters, rien que ça. Nos invités ensuite, Noé Debré, le créateur, le showrunner, comme on dit désormais, de la série Parlement. Succès surprise et mérité de l'année dernière, une comédie bien informée consacrée aux coulisses du Parlement européen. Nous serons également avec le comédien Xavier Lacaille qui incarne dans Parlement le personnage principal de Samy, attaché parlementaire plus vrai que nature. Enfin, la chanteuse mais également comédienne Louane, on l'avait découverte dans La Famille Bélier, 7 millions d'entrées, un César du meilleur espoir féminin. Elle revient dans la nouvelle série événement de TF1 qui démarre ce soir à 21h, s'appelle Vision, fiction qui mélange le polar, le drame familial et surtout le paranormal. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
Eh bien, un journal 100% actu télé, ça arrive, c'est comme ça, c'est comme on ne choisit pas. On parlera Eurovision, suppression d'émissions, suppression de la redevance, nouveautés dans Fort Boyard et dans la chanson de l'année et également une soirée spéciale Isabelle Huppert que je vous présenterai. Huppert,
voilà, c'est la soirée que vous allez nous présenter et non pas Isabelle Huppert. On reste dans l'actu télé puisqu'on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé le film sur TF1, La chute du président, 4 400 000 téléspectateurs, c'est un bon score, hein, 23,8% de part d'audience. Deuxième, France 2 avec le film La belle époque de Nicolas Bedos, 2 550 000 téléspectateurs, 13,4% de part d'audience. Et puis troisième, là c'est un petit score pour le magazine Capital sur les parcs d'attractions qui rêvent de détrôner Disneyland, 2 100 000 téléspectateurs, c'est le moins bon score de la saison, 10,9% de part d'audience.
On passe aux audiences du week-end et on commence évidemment par samedi soir.
Trois programmes au coude à coude. C'est l'Eurovision qui a été le plus regardé de la soirée avec 3 100 000 téléspectateurs. France 2 était donc en tête mais bien loin de l'audience record de l'an dernier, 5 500 000 de téléspectateurs. En même temps, l'an dernier, Barbara Pravi avait beaucoup plus brillé que nos candidats cette année, donc ce qui avait maintenu les téléspectateurs en haleine jusqu'au bout du programme pour voir si elle allait gagner. Deuxième de la soirée, la demi-finale de The Voice, présentée non pas par Nikos Aliagas qui était malade, mais par Alessandra Sublet. 3 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous. Et puis troisième, sur la troisième marche du podium, la fiction de France 3, Meurtre à Cayenne. Là, c'était pas un gros score pour Meurtre A, qui d'habitude attire beaucoup plus de monde, 2 900 000 téléspectateurs.
Et alors, dans le week-end, il y a aussi le vendredi. Vendredi soir, qu'ont regardé les Français?
La finale de Mask Singer, 3 500 000 de téléspectateurs étaient devant TF1. C'est 2 millions de moins que lors de la précédente finale. Deuxième de la soirée, France 2, 2 500 000 de téléspectateurs ont regardé Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. C'est à peu près le même score que lors de la dernière diffusion. Et puis M6 a attiré 1 740 000 téléspectateurs devant Recherche Appartement ou Maison.
Voilà, et tous ces chiffres sont en train de décliner parce que c'est le beau temps et l'heure d'été qui arrive.
Exactement.
À plein.
Europe 1 Culture Média.
À la une du journal des médias, l'Ukraine, grande gagnante de l'Eurovision.
Mais oui, on vous le remet encore une petite fois, hein, oui. Cette chanson, Stefania. Le groupe Kalush Orchestra a été favori de la compétition. Eh bien, ça n'a pas loupé. C'est la troisième fois dans l'histoire de l'Eurovision que l'Ukraine gagne. Une victoire grâce au vote du public, car elle était seulement quatrième du classement des professionnels. Tous les pays ont donné des points à l'Ukraine. 28 d'entre eux, sur les 39 qui participaient, ont même donné le maximum, 12 points. Victoire artistico-politique donc, hein, qui s'est d'ailleurs terminée par un message du chanteur. Je vous demande à tous, s'il vous plaît, aidez l'Ukraine et Mariupol. Et le groupe vient d'ailleurs de publier le clip de sa chanson Stefania, tournée dans les ruines et les décombres en Ukraine. Reste une question, l'Ukraine organisera-t-elle le prochain concours? Parce que c'est la tradition, quand on gagne, on organise. C'est en tout cas ce que souhaite le président Volodymyr Zelensky. Nous ferons notre mieux pour accueillir un jour les participants et les invités de l'Eurovision dans la ville ukrainienne de Mariupol, libre, en paix et reconstruite. un petit peu optimiste quand même, hein, quand on sait que l'organisation d'un tel concours prend toute l'année.
Et la France alors dans tout ça ?
Elle n'a pas brillé, hein, je vous le disais pendant les audiences. Le groupe
Je le savais, mais je voulais vous le laisser le dire.
Voilà, le groupe breton Alvaneaez a terminé avant-dernier de la compétition. On est loin, bien loin du résultat de l'année dernière. Barbara Pravi était deuxième, mais elle, c'était en partant du haut du classement. Le groupe s'est quand même dit fier d'avoir participé. Chanter en breton devant des centaines de millions de téléspectateurs, ça n'arrive quand même pas tous les jours.
On reste sur le service public. La suppression de la redevance télé inquiète les journalistes.
Trois sociétés de journalistes ont publié un communiqué commun, celle de France 2, France 3 et Franceinfo.fr. Elles pointent du doigt la menace que représenterait la suppression de la redevance. Menace pour l'indépendance du service public, pour l'information, car la redevance c'était un impôt affecté automatiquement au financement de l'audiovisuel et donc, selon les sociétés des journalistes, une fois voté, il ne dépend plus de la bonne volonté du pouvoir et de ses mauvaises humeurs. Elle dénonce aussi un marché de dupes, je cite, car le gouvernement promet une hausse du pouvoir d'achat des Français en supprimant cette redevance et en même temps garantit le même financement à l'audiovisuel public. Impossible, selon ces journalistes. Soit l'État continue de financer l'audiovisuel public et mobilise de l'argent public, donc celui du contribuable, soit il ne compense pas à la fin de la redevance et réduit donc les moyens de l'audiovisuel public. En cas de victoire aux élections législatives, le gouvernement a prévu de faire voter très vite cette suppression de la redevance juste après le scrutin.
France 2 arrête l'émission Spectaculaire.
Oui, c'était une création française présentée par Jean-Marc Généreux et Cyril Ferraud. Elle s'arrête faute d'audience satisfaisante, c'est souvent comme ça. La première soirée avait été suivie par 2 millions de téléspectateurs seulement, la seconde encore moins, par 1 600 000. La direction a donc décidé de ne pas renouveler ce programme car il n'a pas rencontré son public. C'est la directrice des divertissements de France Télévisions, Alexandra Redamiel, qui l'a annoncé sur une radio concurrente. Et que deviendra Jean-Marc Généreux, dont c'était le seul programme ? Elle lui promet de belles choses, mais plus tard.
France 2 toujours, un nouveau personnage dans Fort Boyard, incarné par une célèbre candidate de Koh-Lanta.
Clémence Castel, qui a remporté le jeu deux fois, c'est la seule. Elle quitte la une pour passer sur la deux. Elle va incarner le personnage de la guerrière mystère. C'est une information de Télé-Loisirs. Alors que va faire ce nouveau personnage ? Eh bien, les candidats vont devoir l'affronter pendant 5 épreuves. Ils ne sauront pas qui leur fait face. À chaque épreuve remportée, ils auront un indice supplémentaire pour tenter de découvrir l'identité de la guerrière. S'ils y parviennent, alors ils auront un bonus pour la fin de l'émission. Les tournages ont déjà commencé depuis une semaine. Mais il en reste encore et comme l'information est sortie, je me demande quand même.
J'étais en train de me dire, je comprends rien. Elle est mystère ou c'est Clémence Castel ?
Voilà, on est plus sûr que ce soit vraiment une guerrière très mystère. Ils savent désormais, si vous nous écoutez, les candidats qui n'ont pas encore participé, que c'est Clémence Castel. Voilà, c'est cadeau, c'est pour nous. Et l'émission sera diffusée comme chaque année pendant l'été.
Télévision toujours, mais on passe sur TF1 cette fois avec quelques nouveautés dans l'émission La Chanson de l'année.
Le divertissement de TF1 va redevenir un grand concert gratuit en public après deux émissions limitées. À cause du Covid, cette fois, 10 000 personnes pourront venir autour de la scène qui sera installée du côté Toulon sur la plage du Mourillon. Information du Parisien aujourd'hui en France. Du nouveau aussi du côté des critères de sélection des chansons. Seule une vingtaine de titres seront en compétition contre une trentaine auparavant. Et comment seront-ils choisis ? Eh bien, sur une moyenne du nombre de diffusions à la radio. Et puis, ils seront aussi ensuite éliminés les artistes qui ne sont pas disponibles pour la soirée. On a déjà quelques noms de confirmés comme Amir, Angèle, Big Flo et Oli, Clara Lucia, Jules et Juliette Armanet. L'émission sera enregistrée dans les conditions du direct. Ce sera dans la première quinzaine de juin.
Et on termine ce journal avec le focus programme du jour. C'est Arte qui propose ce soir une soirée spéciale Isabelle Huppert.
Oui, c'est leur manière de célébrer le début du Festival de Cannes qui commence cette semaine avec la diffusion du film Elle de Paul Verhoeven d'abord, qui avait été présenté d'ailleurs sur la Croisette en 2017 et qui avait valu ensuite nombreux prix et nominations à Isabelle Huppert. Juste après le film, c'est un documentaire, un portrait de l'actrice que vous pourrez découvrir. Message personnel, c'est un film pudique où Isabelle Huppert se raconte elle-même au réalisateur William Carell. Cette forme d'autoportrait, tous les deux la souhaitaient et c'est ce que m'a expliqué la productrice du film, Dominique Tibi.
William avait besoin qu'elle donne quelque chose de son intimité ou qu'elle soit partie prenante en tout cas du projet et je pense que de son côté à elle, elle avait aussi besoin d'être dans une réflexion sur le film. D'ailleurs, William dit souvent en rigolant, c'est pas mon film, c'est son film. C'est un film miroir, c'est un film qui parle aussi de sa personnalité, c'est-à-dire que la forme du film, pudique et tout en nuances, en ironie, en mouvement comme ça, ce montage aussi très virtuose fait que finalement le film lui ressemble énormément.
Et pour se livrer, pas question de faire une interview très classique face caméra, non. Ils ont opté pour une façon très originale de construire ce film. Ils ont réalisé un entretien non filmé, simplement enregistré pendant plusieurs heures. Puis ça a été retranscrit, retravaillé pour arriver à un texte qui a été soumis à Isabelle Huppert, qui a alors apporté quelques modifications. Et c'est sur cette base que le réalisateur a travaillé avec les archives, les extraits de films, les making-of. Ça donne un film non pas sur sa vie privée, mais plutôt sur sa vie d'actrice. Se confie notamment sur ses relations avec les réalisateurs comme Chabrol.
On va dire que le film permet de comprendre à quel point le métier d'acteur est difficile. Elle a beaucoup voulu s'exprimer sur le métier d'acteur et la vie sur un plateau et la manière de traiter les rôles et les personnages. Elle dit qu'il n'y a pas de personnages, il y a des états et des personnes. Les personnages, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas un film qui va aller sur les zones sombres, les zones noires. C'est plus sur la beauté, la difficulté du métier d'acteur. Et c'est une façon aussi de la redécouvrir et d'avoir envie de revoir tous les films qui défilent.
Dominique Tibi, productrice du documentaire Isabelle Huppert, message personnel, qui est diffusé ce soir à 23h sur Arte ou qui est déjà disponible sur arte.tv. Et la soirée Isabelle Huppert démarre dès 20h50 avec la diffusion du film Elle.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite, c'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, c'est notre info média du jour. On va parler d'Iggy Pop, personnage unique avec un documentaire unique. Nous serons avec sa réalisatrice Sophie Blondy. À tout de suite.
9h-11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Notre infomédia du jour est un documentaire unique qui s'attache à un personnage unique de l'histoire de la musique, Iggy Pop. À lui seul, il a changé la face du rock depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Il est apparu dans le paysage comme un météore ou une météore, je ne sais jamais, avec un titre totalement dingue qui préfigure le punk avant l'heure. Il a également inspiré le metal et le grunge. Ce titre, c'est « I Wanna Be Your Dog », extrait. Pop, c'est également Passenger. Et dans un genre totalement différent, Nightclubbing en collaboration avec David Bowie, extrait. Pop qui a fasciné Bowie, mais également des gens aussi différents que Johnny Depp, John Waters ou Béatrice Dalle. Bonjour Sophie Blondy.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous aussi, vous êtes une cinéaste hors norme. Vous avez rencontré Iggy Pop sur le tournage de votre deuxième film. C'était L'Étoile du jour, casting 5 étoiles. Béatrice Dalle, Denis Lavant, Natacha Régnier, Tchéky Cario et Iggy Pop. Donc, Iggy Pop et autre icône à qui vous consacrez un documentaire à voir sur MyCanal. Avec nous, le producteur du doc, Victor Robert, via votre société 10.7. Bonjour Victor Robert.
Bonjour Philippe, on dit un météore.
Un météore, merci beaucoup, je suis très content, j'aime bien quand on fait les rectifs en direct. Donc cette actualité, votre actualité commune, c'est Tell Me Iggy, documentaire sur MyCanal à partir d'aujourd'hui, et puis on le verra lundi prochain, le 23 mai, sur Canal Plus Doc, avec Béatrice Dalle, Johnny Depp, Debbie Harry de Blondie, John Waters le cinéaste, Nick Cage, je dirais qui c'est, le comédien Denis Lavant, et la participation d'Antoine de Caunes. Iggy Pop a 75 ans, ses meilleurs amis sont morts, David Bowie ou Lou Reed, pour ne citer qu'eux. Et comme dit son ami et agent Alain Lahana, qu'on entend également dans votre film, c'est le dernier des Mohicans. Sophie Blondy, comment est né ce documentaire complètement fou?
Ben en fait, rencontrer Iggy, c'est déjà un miracle. Et j'avais envie de lui faire cette déclaration d'amour, d'aller rencontrer des gens qui l'ont connu, comme Debbie Harry, comme... C'était vraiment un parcours très fort pour moi de lui donner cette déclaration et de pouvoir témoigner de cet artiste incroyable qu'il est. Comme dit Alain Lahana, c'est le dernier des Mohicans, mais c'est vrai que c'est un être très libre et très intègre. Je voulais vraiment faire un documentaire sur le côté intime et sur tout ce qui pouvait nous révéler de l'intérieur d'un destin qui est peut-être né quand il avait 14-15 ans et comment il a tenu comme ça ce cap d'une liberté totale. Parce que c'est vrai que quand on voit maintenant son public, on a, comme il le dit lui-même, il y a des gamins, il y a des gens de 80 ans et c'est merveilleux parce qu'il a une amplitude maintenant très grande.
Victor Robert, comment ce documentaire, vous en êtes le producteur, est arrivé jusqu'à vous?
En fait, l'idée, c'était de réunir Iggy Pop à un rapport particulier avec la France. Ça va de Balzac au Grand Cru de Bordeaux. Donc, la France lui rend bien, d'ailleurs, parce qu'il a un public très important ici. Il fait une tournée actuellement, Iggy, en France. Mmh. Et le but, c'était de réunir ses amis français. Ses amis français, c'est Sophie. Voilà, il a accepté de tourner dans le film de Sophie pour son talent, pour tout ça, et pour aussi rencontrer Denis Lavant, parce qu'il était fan de Denis Lavant. Donc, ils font un numéro extraordinaire, tous les deux, dans le film. L'autre ami français, c'est son agent, vous l'avez dit, c'est Alain Lahana, qui a été agent de Bowie aussi, de toute cette époque avec Iggy. Et le troisième ami français, c'est l'incontournable Antoine Decaune. Donc, tout ce petit monde, Antoine et Sophie, sont partis à Miami chez Iggy Pop, dans sa deuxième résidence de Miami, où il reçoit ses invités. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir un Iggy intime, et je pense qu'on l'a dans le film.
Alors, on va entendre Béatrice Dalle qui témoigne dans ce doc. Elle témoigne de son admiration, on l'écoute.
Je trouve que quand tu viens de la rue, forcément, t'as plus les crocs, t'as plus envie, t'as pas de barrière, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. C'est une intégrité, et je trouve que l'intégrité, ça paye, quoi. C'est pas pour rien que c'est une icône aujourd'hui. Ouais. Tu sais quoi, t'aurais dû me filmer quand on... Au lieu de filmer Guy, tu me filmes deux secondes quand je le regarde sur scène. Tu vas voir ce que c'est irradié. Ah ouais. Mais mon sang, il doit être... Comme à Tchernobyl, tu sais. Je suis sûr que je deviens fluorescente la nuit. Moi, je suis... Béate, tu sais, comme une gamine devant son premier amour.
La première chose qu'elle dit, c'est qu'Iggy Pop est le type qu'elle a vu le plus sur scène une cinquantaine de fois. Vous-même, vous l'avez vu combien de fois ?
Moi, je l'ai vu peut-être 10 fois, moins que Béatrice. Mais la première fois que je l'ai vu, c'était à l'Olympia. Et je dois dire que c'est un choc. On m'avait prévenu, mais je ne m'attendais pas à être portée, soulevée, irradiée. Iggy, c'est quelqu'un qui donne tellement... que les gens sortent, mais même maintenant, là, on l'a vu Salle Pleyel quand il est passé à Paris, il donne énormément. Et ça, voilà, c'est quelqu'un qui... C'est assez difficile à expliquer, en fait.
On va entendre celui qui est l'un des plus grands rock critiques, en tout cas les plus connus, les plus écoutés au monde. Il parle d'Iggy Pop, c'est l'anglais Nick Kent.
En tant que musicien, pour moi, Iggy fait partie des plus grandes bêtes de scène du XXe siècle.
James Brown, Prince,
Mick Jagger, quand il est au top de sa forme.
Et Iggy
sont les quatre plus grands performeurs que j'ai jamais vus sur scène.
Là, on l'entend, on est à la radio, je ne peux pas tout montrer, mais on le voit en concert devant des milliers de personnes. Il se déshabille, on voit son sexe, et la foule est en délire. Sophie Blondy, vous avez choisi de mettre cette image à lui.
Oui, parce que je trouve que c'est un don de soi, c'est-à-dire qu'il est nu, mais il est comme une statue, il n'y a aucune grossièreté, il n'y a aucune vulgarité. C'est un don total, un don absolu. Et Iggy, c'est quelqu'un qui se donne complètement. Je n'ai jamais vu quelqu'un sur scène, et même dans la vie, c'est quelqu'un qui est d'un don incroyable. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je trouvais beau, de pouvoir se mettre nu sans qu'il y ait une pointe de vulgarité.
On a parlé d'Iggy Pop, on va encore mieux parler de ce documentaire. On est avec Sophie Blondy qui l'a réalisé, on est avec Victor Robert, le producteur. Culture Média continue sur Europe 1, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Lust for Life, c'est Iggy Pop, titre produit comme deux albums par David Bowie. Ce n'est pas le seul à être admiratif du talent d'Iggy Pop. On dit qu'il est complètement barré. Sophie Blondy, vous êtes aussi barré que lui. C'est une histoire d'amitié. Il était venu tourner dans votre premier film qui s'appelait L'Étoile du Jour. Votre deuxième film qui s'appelait L'Étoile du Jour.
Oui.
Comment vous avez réussi à le convaincre de venir tourner dans votre film?
Moi, je ne sais pas si je suis barré, c'est ce qu'on dit, mais enfin, moi, j'ai l'impression juste d'être moi-même. Parce que
Non, vous êtes barré. Alors, vous racontez une histoire. Mieux. Je vais donner un exemple qui indique le niveau de barritude de Sophie Blondy. Pour le tournage de votre film, Iggy arrive en avion privé sur la côte d'Opale. Et pour payer cet avion privé, vous avez fait un chèque sans provision.
Ben oui, c'est vrai, mais je n'ai pris que ma responsabilité sur moi. J'ai assumé après, j'ai remboursé.
Ouais.
Mais c'est vrai que je pense que dans la vie, il faut prendre des risques et rencontrer Iggy Pop quand même. Oui, j'ai fait un chèque sans provision. Et puis, j'ai pris tous les risques. Après, je les ai assumés. Mais je me disais que ma vie allait changer et que c'était merveilleux qu'il accepte. Pourquoi ? J'en sais rien. Il avait vu mon premier film avec Guillaume Depardieu et je lui ai envoyé juste une page avec l'idée de L'Étoile du Jour et il est venu. Pour moi, ça reste encore une grâce, un miracle, quoi.
Victor Robert, c'était rock'n'roll le tournage de ce doc ?
C'était rock'n'roll. Non, mais ça va parce que c'est des vieux. Enfin, je vais pas dire. Je le dis avec beaucoup de tendresse. Et puis, je suis pas tout jeune non plus. C'est des vieux rockers, donc ils se sont calmés maintenant. Mmh. Et c'est vachement agréable de les entendre parce qu'en fait, il y a tellement de gens sans talent aujourd'hui qui parlent avec prétention que qu'entendre Iggy Pop avec son humilité, avec ça, c'est un mec sauvage. Je vais peut-être choquer quelques fan de rock, mais en fait, Iggy Pop, David Bowie rêvait d'être Iggy Pop parce qu'il lui enviait son côté sauvage, désintéressé.
Ouais.
Et en fait, c'est vraiment ça, Iggy Pop, et je trouve que ça fait souffler un petit vent de fraîcheur.
On est d'accord.
L'humilité, c'est important.
Il est plutôt jeune, il a une immense carrière, c'est John Waters, le cinéaste. Iggy Pop a tourné sous sa direction Cry Baby, c'était avec Johnny Depp. On va écouter John Waters, qui parle d'Iggy Pop, non pas le comédien, mais le chanteur.
J'ai toujours été fan de sa musique. Je l'ai vu se produire sur scène, plonger dans la foule. C'est probablement le premier à l'avoir fait. Et sa nudité, c'était tellement choquant à l'époque. C'est un pro, il sait ce qu'il fait. Il fait ça depuis 50 ans. Il ne déçoit jamais son public. Et en vieillissant, c'est incroyable parce qu'il continue de se mettre nu, il continue de plonger dans la foule, et pas une seule fois, il n'a eu l'air ridicule. Personne d'autre ne peut faire ça.
Dans Cry Baby, il y avait également Johnny Depp. Vous avez obtenu une interview exclusive de Johnny Depp, ouais, et Sophie Bramley. Par quel miracle ? C'était
Sophie
quand
Blondie.
Sophie, oui, j'ai une amie qui s'appelle Sophie Bramley, qui est une productrice de rap.
Par des producteurs aussi qui travaillent avec Iggy, j'ai essayé de l'approcher. C'est vrai que ouais, ça a été quand même 4 mois de négociation. Et il nous a reçus chez lui. Et c'est vrai que c'était exceptionnel. D'abord, tout ce qu'il nous a donné par rapport à ses confidences sur Iggy, mm-hmm, c'est quelqu'un de très généreux. Je ne m'attendais pas à autant de confidences. C'est quelqu'un de Johnny Depp qui est vraiment passionné par la culture française. Et tout ce qu'il nous a révélé d'Iggy sur sa rencontre et sur ce qu'il est, vraiment. Parce que c'est vrai qu'Iggy, c'est quelqu'un de surnaturel. C'est quelqu'un, il l'a compris.
Je vais dire un mot du surnaturel. Je précise juste qu'évidemment, l'entretien avec Johnny Depp, c'était bien avant ses histoires avec Amber Heard et ses procès. Et c'est très touchant parce que même parfois, il parle un petit peu en français. Il est surnaturel, Iggy Pop. Je l'ai appris grâce à vous. Il faut raconter pour qui ne l'a pas vu. Il n'a pas fait que des bons disques, il a multiplié les excès, l'alcool, la drogue, les overdoses, 2 tentatives de suicide, la violence, même des violences contre lui-même. Souvent, Iggy Pop sur scène se mutilait, il finissait ses concerts en sang, et c'est là que j'ai découvert, grâce à vous, une dimension presque christique, miraculeuse, avec des caractéristiques biologiques assez incroyables. Racontez, il se blesse et le lendemain...
Bah c'est vrai, c'est ce qu'il dit dans le documentaire, on ne comprend pas, parce que tous les gens qui l'ont approché depuis des années, en fait, il se coupe, il s'abîme, et le lendemain, il n'y a plus rien. Donc, il a vraiment quelque chose de...
Il cicatrise réellement au sens
mais oui,
propre
mais
du terme.
En fait, c'est de l'auto-guérison, il a une telle puissance vitale qu'il s'auto-guérit. Et ça, c'est observé. Donc, ça donne un côté... Il est quelqu'un de très cosmique, de vraiment surnaturel.
Iggy Pop a 75 ans, il avait demandé à la production de ne pas parler de bilan ni de fin de vie. Et finalement, il va de lui-même sur ce terrain. Il y a cette très jolie phrase, le problème avec la vie, c'est qu'elle s'arrête. Ouais. Il ne voulait pas d'un documentaire nécro. Et pourtant, il parle de la mort, des phrases assez fortes sur la postérité. Iggy Pop lui-même.
Quand je pense à ce qu'il y a après la mort, deux choses me viennent toujours à l'esprit. La première, c'est qu'il y a des gens sur cette terre que j'aime. Et je me dis, merde, qu'est-ce qu'ils vont faire quand je serai mort ? Évidemment, il y a l'autre chose. Les gens me disent, et qu'est-ce que tu vas laisser au monde ? Mais j'en ai rien à foutre. J'ai pas assez d'ego pour ça. Je pense que j'ai le sentiment que, vu la tournure que les choses sont en train de prendre, l'univers musical dont je fais partie va continuer à toucher les gens, tu vois ?
Reach people.
Et ça, c'est chouette. Mais j'en ai pas non plus grand-chose à foutre.
Et son humour unique. Au générique, Victor Robert, il est indiqué avec la participation d'Antoine Decaune. Quel a été son apport ? On voit juste Antoine sur une image. On le voit en train de déboucher une bouteille de vin blanc. Je me suis dit, c'est une sacrée participation. Blague à part, il a fait quoi,
ouais,
Antoine ?
Ouais, ils ont juste picolé tous les deux.
Non, blague à part.
Non, c'est Sophie et Antoine se sont chargés de l'interview et Antoine s'est déplacé avec Sophie à Miami. Et voilà, et l'important, il était déjà avec Sophie, mais avec le bonus Antoine Decaune, Iggy Pop était tout à fait disposé à raconter sa vie. Il avait ses deux meilleurs amis français avec lui et c'était ça l'objectif.
De voilà. Quelle manière Sophie Blondy vit maintenant Iggy Pop? Parce que c'est plus la défonce et les cendriers pleins et les bouteilles
non,
vides
mais
qui traînent par
façon,
terre.
Il y a une forme de conscience de la vie, c'est-à-dire que évidemment il vit à Miami. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de lumière. Il a voulu quitter un peu toutes ces villes qui étaient parasitantes pour lui et toxiques. Donc il vit dans la nature. Oui, c'est vrai, il fait du qigong. Il médite, mais de toute façon, il est vraiment comme un chaman. Mais en même temps, c'est ce qui lui permet de donner tout quand il est sur scène à 20 000 ou 200 000 personnes. C'est-à-dire qu'il a fait un retour sur soi et il est dans un... Enfin, oui, c'est ce qu'il raconte dans le documentaire. Il parle de toute cette intériorité qu'il travaille.
Alors, juste une info pour qui voudrait voir Iggy Pop. Il est en concert en France, à Marseille demain, à Strasbourg lundi, à Reims, mercredi 25 mai, et ce sera la Sainte Sophie. Merci
oui,
beaucoup, Sophie Blondy, d'avoir été avec nous. Vous ne saviez pas ça, Victor Robert. C'est la boîte de points 10.
Merci, merci Victor pour avoir produit ce documentaire.
Tell Me Iggy, documentaire sur MyCanal à partir d'aujourd'hui, lundi prochain, le 23 sur Canal Plus Doc, avec Béatrice Dalle, Johnny Depp, Debbie Harry, John Waters, Nick Ken, Denis Lavant et la participation d'Antoine Decaune. Merci d'avoir été avec nous, Pierre-Edgy. Je vous avais oublié. Merci d'avoir été avec nous, Sophie Blondy.
Merci beaucoup.
Dans ce studio, Culture Média continue dans un instant à parler de la série Parlement, diffusée sur France TV et sur France 5. Ça avait cartonné en 2020. Ça revient pour une saison 2. Nous serons avec le créateur de la série, Noé Debré, et Xavier Lacaille, le premier rôle. Ils arrivent dans ce studio. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Noé Debré.
Bonjour.
Vous êtes scénariste, réalisateur. J'étais encore avec Sophie Blondy pour tout vous raconter. Vous êtes scénariste, réalisateur. Je mets toutes les idées dans le bon ordre. Vous avez notamment coécrit le film D'IPAM de Jacques Audiard, Problemos d'Éric Judor ou encore Le Brio d'Yvan Attal. Et vous êtes le créateur, le showrunner de la série Parlement. Succès surprise, quoique mérité, de l'année 2020, de cette comédie consacrée aux coulisses du Parlement européen. Xavier Lacaille est avec nous. Bonjour.
Bonjour, je suis actrice.
Exactement. Vous êtes comédien, vous incarnez dans Parlement le personnage principal de Samy. C'est un mec attaché parlementaire au Parlement de Strasbourg et on reçoit tous les deux alors que la saison 2 est disponible sur France TV et que France Télévisions a décidé de diffuser la saison 1 de Parlement le lundi soir à 20h50. Les épisodes 4, 5 et 6 diffusés ce soir sont des épisodes de 25 minutes à peu près. Longue préparation pour dire ça. Comment est né Parlement? Que raconte votre série Noé Debré?
Alors, la série est née d'une part dans l'esprit de Fabienne Servan-Schreiber, productrice reconnue et connue, et qui était dont le mari, Henri Weber, était député européen. Et donc voilà, elle avait ce désir. Moi, de mon côté, j'ai grandi à Strasbourg et dans l'appartement dans lequel j'ai grandi, je voyais le Parlement de ma fenêtre.
Ouais.
Donc il a toujours été très concrètement dans le paysage. Et un jour, on s'est rencontrés avec Fabienne et on s'est dit qu'on était probablement les deux seules personnes à vouloir faire une série sur le Parlement européen, donc on l'a faite ensemble.
Voilà, vous l'avez faite, elle a été diffusée, et vous n'avez pas été les deux seuls à la regarder, puisque ça a plutôt pas mal marché. La série était seulement disponible en ligne il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous avez fait quand France Télévisions vous avez appris qu'elle serait diffusée en prime time à la télé?
En réalité, ouais, nous, on ne s'y attendait pas. En fait, ce que ça nous a fait, la première chose, c'est qu'il fallait faire une VF. Qui n'existait pas parce que la série est tournée en multilingue, moitié en anglais, moitié en français, il y a de l'allemand, un peu d'espagnol, etc. Et donc ils nous ont dit ça va passer.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Je dois tout vous dire, nous sommes en direct, on a eu un petit problème avec la console, les sons ne passaient plus, on a marqué une pause, on a tout réparé, tout fonctionne, nous sommes toujours avec Noé Debré et avec Xavier Lacaille, on parle de cette série Parlement, c'était simplement en ligne, désormais ça passe sur France 5, la saison 1, la saison 2 passe également, on vous donnera tout ça à la fin. Pour qui n'a pas vu Parlement, que raconte la série? Quel est l'enjeu? Noé Debré, vous êtes le showrunner, le créateur de la série.
Alors en deux mots, Parlement est une comédie qui se passe au Parlement européen et on suit les aventures de Samy, un jeune assistant parlementaire qui ne connaît pas grand-chose au fonctionnement de l'institution et qui essaye de naviguer plus ou moins à vue.
Alors Xavier Lacaille, dans cette nouvelle saison, vous n'êtes plus l'assistant parlementaire du à la fois très bête et très attachant au député Michel Speclin. La saison 2 démarre avec votre personnage qui enchaîne les entretiens et vous finissez par arriver au bureau d'une jeune élue écolo, fraîchement élue au Parlement. Mais ça démarre très très mal, donc très très bien pour nous, avec un quiproquo. Samy prend la députée pour une assistante et se lâche Il donne quelques confidences. Le problème, c'est que c'est avec elle qu'il va devoir passer son entretien.
C'était qui ton ancien député ?
Speclin, Michel Speclin ?
Ah oui, oui, le mec avec le visage un peu rouge, là.
Oh, Fleury.
Et c'était bien ?
En fait, si tu veux, tu as deux types de députés. Tu as les psychopathes et les imbéciles. Évite ceux qui combinent les deux qualités, tu t'en sortiras pas trop mal.
Bon, et je crois que Valentine va pouvoir te recevoir.
Ah bah, ok, super.
Merci.
Je te les bovins, j'ai pas besoin de ça.
Oui.
Excuse-moi, tu as du café par hasard ?
Non.
D'accord.
Entrez. Alors, vous avez un CV ?
Oui.
Oui, non ?
Oui, c'est juste. Ouais.
Il faut préciser que la personne à qui il dit tu, la personne à qui il dit vous, c'est une seule et même personne. Comment vous avez fait évoluer votre personnage, Xavier Lacaille, entre les deux saisons ?
Eh bien, il grandit, il est un peu plus sûr de lui. On l'entend avec une autre assistante, enfin une personne dont il croit que c'est une assistante. Il fait du zèle et il s'amuse un peu de ça. Sauf qu'en fait, il se retrouve évidemment confronté à une députée qui est plus stratège, plus maligne que le député Michel en saison 1. Et il se retrouve confronté à des plus gros poissons, à des plus grands obstacles. Donc, il essaie de naviguer toujours à vue. Il croit qu'il connaît, mais en fait, il connaît absolument rien. Et je peux pas trop révéler de l'intrigue parce que ça spoil. Mais disons qu'il continue à essayer de faire voter un amendement. C'est pas exactement le feeling, mais ça s'appelle le Blue Deal en saison 2.
C'est vraiment votre vision de l'Europe et de ses élus. On a le choix entre des psychopathes et des imbéciles.
Non, attendez, je suis interprète. Je ne valide
alors,
pas.
Alors, je pose la même question à Noé Debré. C'est votre vision ?
Non, pas du tout. Mais en fait, parce que l'objet de cette scène, c'est de montrer qu'il fait le malin. En fait,
d'accord.
Donc il essaye de faire le beau avec une assistante, enfin, il s'imagine être une assistante débutante, et donc il a des grandes formules comme ça et ça lui retombe immédiatement dessus.
Alors je voudrais rassurer les fans de la série, le député Michel Speclin qui est incarné par, je trouve plus son nom, un ancien déchien, Philippe Duquesne, voilà,
on
exactement,
salue.
Il est toujours là, il vous en veut de travailler pour une autre, extrait de l'épisode 2, alors que Samy tente de convaincre Speclin de prendre la présidence du Parlement.
Ça doit être marrant d'être président du Parlement quand même, hein. Les voyages, bon les voyages c'est pas votre truc, mais il y a des rencontres, on est vachement au centre de l'attention, ça doit être super. Michel, vous m'en voulez parce que je suis parti avec une nouvelle députée, c'est ça ? Michel ?
Non, vous faites ce que vous voulez, si vous la préférez, elle.
Je la préfère pas, c'est juste que j'ai ressenti le besoin de faire un changement dans ma vie, c'est tout.
Un changement dans ma vie, tiens.
Vous savez, on pourra continuer à se voir. Le week-end par exemple. Un week-end sur deux. Un week-end sur trois.
La vérité, c'est que vous m'avez abandonné, Samy.
Xavier Lacaille, vous êtes le comédien qui avait abandonné Philippe Duquesne. Est-ce qu'il y a un avant et un après ? Là, je viens à la vraie vie,
oui.
Parlement.
Bien sûr. Bah oui, parce que c'est évidemment une série qui a permis de mettre de la lumière sur plusieurs acteurs. Hein. Je suis pas du tout le seul, et ça a été l'occasion pour plein de gens de découvrir plein d'acteurs, parce que c'est ce que racontait Noé, c'est que c'est une série avec plein d'acteurs européens qui sont parfois connus dans leur pays et qu'on connaît pas forcément en France.
J'ai mal posé ma question. Est-ce que téléphone a davantage sonné pour vous, comme
bien
les gens
sûr.
Qui ont joué dans 10% disent
eh oui.
Il y a un avant et un après 10%. C'était
le
sens de ma question.
Oui, effectivement. Mais je parlais des autres plutôt que de parler de moi. Mais oui,
mais comme c'est vous qui êtes avec moi, ma
c'est
question
vrai.
Était pour vous.
Non,
sinon, j'aurais appelé les autres.
La question.
Ouais. Un peu. Mais je reste tranquille. Voilà.
Noé Debré, qui sourit beaucoup, quels ont été les retours des députés européens depuis la diffusion de la saison 1 ? Comment l'ont-ils prise ?
Globalement, les gens dans les institutions aiment beaucoup la série. On a beaucoup de quand on y va. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on écrit vraiment la série dans les murs du Parlement. On se retrouve avec mes co-auteurs, parce que deux de mes co-auteurs sont eurocrates. Mmh. Un est conseiller politique et l'autre est fonctionnaire à la Commission. Et donc, on se retrouve à Bruxelles ou à Strasbourg. Ils nous accréditent comme visiteurs au Parlement et on rentre et quand on voit un bureau, enfin une salle de réunion ou un hémicycle vide, on rentre et on écrit.
Ils sont toujours en poste aujourd'hui ?
Ah ouais, ils travaillent là-bas.
Et on les laisse faire et on vient leur raconter des histoires ? Comment ça se passe ? C'est extraordinaire.
Ouais, c'est assez étonnant. On les laisse faire. Bon alors, tout ça est quand même assez réglementé. Hein. En l'occurrence, ils ont dû déposer une demande pour auprès de l'institution pour dire qu'ils écrivaient par ailleurs, etc.
Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce que vous inventez ? Qu'est-ce que vous n'inventez pas ? Par exemple, cette scène extraordinaire où on dit vous à d'abord une assistante dont on découvre que c'est une députée, il se met à la vouvoyer. Est-ce que c'est une scène réelle ?
Alors, la situation en elle-même, alors, c'est sûrement arrivé. Maintenant que vous me posez la question, je me demande si c'est pas un truc qu'on nous a raconté. Ce qui est probable, nous, ce qu'on a voulu raconter avec cette scène, c'est qu'il y avait toute une nouvelle génération de députés qui sont arrivés à la dernière mandature, notamment mais globalement d'ailleurs dans tous les partis, notamment à En Marche. Et notamment des gens très jeunes ou qui font très jeunes. Mais comme on voit d'ailleurs au gouvernement, parfois les gens, ils ont l'air d'avoir 30 ans ou même plutôt 25,
17, 18,
17, 18 on ne sait pas trop. Et donc, on voulait faire une blague autour de ça. Quoi.
Justement, il y a Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, qui, m'a-t-on dit, fait une apparition dans la saison 2. Moi, je n'ai pas vu toute la saison, donc je ne sais pas. Vous confirmez cette info ?
Je le confirme.
Et que joue-t-il ? Son propre rôle ?
Il joue son propre rôle. Il joue le rôle de secrétaire d'État aux affaires européennes qui vient... au Parlement pour essayer de mettre un peu d'ordre.
Et comment l'avez-vous convaincu de tourner ? Ce fut difficile ou pas ?
En fait, ça a été en plusieurs étapes. En fait, on a appris qu'il avait beaucoup aimé la saison 1. Et nous, dans les scénarios, il se trouvait qu'on avait un rôle de diplomate qui venait de Paris pour essayer de peser sur la saison, sur l'intrigue. Et puis on s'est dit, mais ça serait trop marrant de proposer ça au ministre. Donc on a réduit un peu le rôle parce qu'on se disait bien qu'il n'allait pas nous consacrer 3 jours. Et on lui a proposé, il était d'accord, et il est venu une journée tourner de 7.
Très sympathique.
Xavier Lacaille, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a des assistants parlementaires qui se sont reconnus dans votre personnage de Samy ?
Oui, j'ai reçu plein de messages. Complètement, j'ai eu plein de messages d'assistants parlementaires et même de futurs assistants parlementaires. J'en ai reçu qui me disaient j'ai envie d'être assistant parlementaire, ça m'a donné envie. Et entre le premier confinement, la sortie il y a 2 ans et maintenant, ils sont devenus assistants parlementaires. Ce qui m'a fait assez plaisir. Je me suis dit ça crée des vocations.
Oui, parce que vous ne les avez pas dégoûtés, parce que c'est pas toujours rose ce que vous montrez, ce que vous incarnez.
Bien sûr, c'est aussi l'intérêt de la série, c'est qu'elle. C'est le vecteur de la comédie et les gens sont intelligents, voient qu'on est dans la parodie, parfois dans la satire, et ils savent que c'est pas exactement la réalité, que c'est croyable et que c'est ça qui nous fait aimer, en tout cas voir ce que c'est que l'Europe, c'est à travers la comédie et les personnages et l'empathie.
Dans un article publié par l'AFP, c'était le 6 mai, on peut lire ce témoignage d'un assistant parlementaire des Verts français. Il dit ceci: j'ai trouvé que la saison 1 nous faisait passer pour des guignols, j'ai peur qu'elle nourrisse un scepticisme plus important vis-à-vis de l'UE. Reconnaissant toutefois, écrit l'AFP, que la plupart de ses collègues avaient beaucoup apprécié Parlement. Donc vous avez presque une responsabilité quand vous écrivez.
Oui, bien sûr. Mais que moi, je limite. En fait, le retour qu'on a quand même globalement du public, c'est pas celui-là. Ça veut dire, évidemment qu'on se pose la question de plus on va aller dans la satire, plus on va caricaturer, plus ça peut alimenter un discours eurosceptique, etc. Mais j'ai l'impression que tout le monde se dit « Ah, ça risque de faire ça sur les autres, mais moi, on m'y prend pas.
Ouais. »
Parce que les gens se rendent compte que c'est de la fiction, que c'est de la comédie, etc. Et en fait, on fait assez confiance à l'intelligence du public pour faire la part des choses. Et par ailleurs, je pense que ça donne plutôt un visage sympathique, au final, aux gens qui vivent dans les institutions. Et je crois que c'est surtout ça dont l'institution a besoin.
Parlement ne parle pas que de politique, Noé Debré. Est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour, pour ne pas dire de sexe, à Strasbourg, au Parlement de Strasbourg ?
Énormément.
C'est vrai ça. Non mais c'est drôle parce que quand on se balade dans les couloirs du Parlement avec des assistants parlementaires, on voit, alors ça c'est mon point de vue, mais des tensions amicales et sexuelles entre les gens, et on voit qu'il y a beaucoup de backstory, beaucoup d'histoires qui ont eu lieu entre les gens, parce que c'est un peu une auberge espagnole, ils ont tous entre 20 et 30 ans quand ils débarquent là, et ça dure 2-3 ans, et on sait qu'on reste pas forcément toute notre vie, donc on profite un peu quoi, il y a quelque chose de l'ordre de ça.
Mais il y a un côté campus en fait, il y a un côté campus universitaire quand on se balade au Parlement, parce qu'effectivement les gens viennent d'ailleurs. Il y a un côté année Erasmus qui ne s'arrête jamais.
Parce qu'il faut dire, il y a deux populations, il y a les députés et puis tous ceux et celles qui travaillent pour eux.
Oui,
et elles.
C'est ça. Ouais. Mais je n'exclus pas forcément les députés de la description que je suis en train de donner. On est humain.
Mais comme d'ailleurs dans toutes les sociétés, il y a des histoires. Quoi.
Comment s'est passé le tournage de la saison 2 à Strasbourg ? La saison 1 avait été diffusée en tout début de pandémie. Est-ce que là, quand vous avez tourné, les couloirs du Parlement étaient vides, ou est-ce que vous avez croisé à la cantine Nadine Morano, par exemple ?
Non, je n'ai pas croisé Morano à la cantine, mais ça m'aurait fait bien rire. Non, on a tourné pendant l'été, du coup, effectivement, pause estivale oblige, il y avait peu de députés. On en avait quand même quelques-uns qui étaient là, et c'était génial de pouvoir tourner à Strasbourg tout l'été, dans les vrais locaux, avec un accès quasiment illimité à l'institution. Quoi.
Ouais. Noé Debré, est-ce qu'une saison 3 de Parlement est prévue ?
Oui, on va normalement tourner la saison 3 là, à l'automne.
Et ça racontera quoi ? Quel va être le nouvel enjeu, la nouvelle arche narrative, si tant est que ce mot est au pluriel en général ?
Je peux vous dire qu'on aimerait bien aller un peu à la commission, ce qu'on n'a pas du tout fait dans les deux premières saisons. Et voilà, on essaye, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas que la série fasse du surplace, donc on a toujours envie de continuer à progresser dans l'intrigue, dans la description des institutions, etc. Et donc là, on pousse encore un niveau de complexité.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Noé Debré, vous êtes le créateur, le showrunner de cette série Parlement. Xavier Lacaille, vous incarnez Samy, assistant parlementaire. Alors je précise bien, Parlement, la saison 1, c'est ce soir sur France 5 à 21h. Et la saison 2 est déjà disponible en intégralité sur France.tv. Merci d'avoir été avec nous en
merci
direct
beaucoup
dans
merci
Culture Média. L'émission continue évidemment après les infos de 10h. Vous allez retrouver les télescopages de Bruno Denet. On va parler politique avec lui, il va nous expliquer pourquoi la formule Mélenchon-Premier ministre électrise les médias. Notre invité, c'est la chanteuse et comédienne Louane. On parle de la série Vision, dont elle est la tête d'affiche sur TF1, ça démarre ce soir. Et puis dans Les Indispensables, on parle de la troisième édition du prix littéraire Europe 1 GMF, qui sera décerné le 9 juin prochain. 5 romans sont en lice. Cette semaine, Nicolas Caro va nous présenter chaque jour l'un de ses 5 livres. Aujourd'hui, celui de Jeanne Benhamer et puis une série documentaire surréaliste autour d'une arnaque végane avec Héloïse Goy, Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. Ce seront ses stories. A tout de suite sur Europe 1.